Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Nicolas Paolorsi.
Il est 15h, c'est l'Intégral Sport sur RMC. Tout de suite, on file à Roudourou. Le match entre Guingamp et le Paris FC. C'est la troisième journée de Ligue 2 avec Xavier Grimaud. Le coup d'envoi dans quelques instants, Xavier.
Ouais, ça va partir dans un instant, effectivement. Guingamp, leader, avec deux victoires en deux matchs. Le Paris FC, quatrième, une victoire, un match nul. Deux équipes qui peut-être se mêleront à la course. Coup d'envoi donné à l'instant par le bien nommé Guillaume Paradis, l'arbitre de cette rencontre. Coup d'envoi donné par les Parisiens de Thierry Loret. Et le premier ballon au milieu du terrain avec Jonathan Iglesias. C'est Pierre Ivamel qui gardera la pointe de l'attaque. C'est la même équipe que celle qui a battu Quevilly pour les Parisiens. Et c'est la même équipe que celle qui a battu Laval pour les Guingampais. On fait confiance à l'équipe qui gagne du côté des deux coachs, Stéphane Dumont et Thierry Loret. On approche des 10 000 spectateurs a priori à Roudourou pour cette rencontre, sous une chaleur accablante, bien sûr, en attendant la pluie, enfin, qui arrivera normalement cette nuit.
C'est dingue de dire ça en Bretagne, quand même. Un Breton qui réclame la pluie.
Alors, on l'a pas vu depuis le mois de juin. C'est vrai que ça m'est jamais arrivé depuis que j'habite, ici. Une minute de jeu 0-0 entre Guingamp et le Paris FC.
Bah, tiens, on peut faire un petit point avec toi sur les compos. Tu disais que les équipes n'avaient pas bougé, mais ça nous permet un peu, en début de saison, de faire le point sur les nouvelles recrues à Guingamp, au PFC.
On va suivre d'abord le débordement pour les Guingampais, d'ailleurs, avec Jérémy Livolant. Le centre qui traîne avec Maxime Bernauer, le défenseur de Paris qui dévisse à son dégagement du pied gauche et ça passe au-dessus. Il y aura un premier corner pour les Guingampais. Le temps de vous faire le 11 de Guingamp avec Kenzo Basilio dans les buts. Défense à 5, Vincent Manceau, la recrue du SCO d'Angers. Donatien Gomis, Félix Eboa, Baptiste Roux et Stéphane Kemper. Dylan Louisser, l'une des recrues au milieu du terrain avec Tristan Mouyumba et trois attaquants. On va dire deux milieux offensifs, Maxime Barthélemy, Jérémy Livelan et un attaquant, Johan Katlin, jeune attaquant formé au club qui a la pointe de l'attaque puisque la recrue numéro 9 de Guingamp, Baptiste Guillaume, est blessé et Gaëtan Courtet également, lui qui est expérimenté en Ligue 2, a signé cette semaine et sur le banc. Le corner sur la gauche en regardant les buts de Filipovic, c'est au premier poteau sur Baptiste Roux, dégagé par le Paris FC de manière compliquée. Il y aura une faute, on va laisser l'avantage du côté de monsieur l'arbitre mais on va avoir du mal à se projeter plus rapidement que ça pour les Parisiens. Du côté de l'équipe de Thierry Loret, on aura donc Ivan Filipovic, le Croate, dans les buts. Une défense avec Julien Le Cardinal, Samir Chergui, Maxime Bernauer et Florent Hanin, le capitaine. Paul Lannes et Moustapha Nam au milieu de terrain. Jonathan Iglesias également et trois attaquants. Mehdi Chahiri, Ali Manigori et donc Pierre-Yves Hamel, l'ancien Lorientais. Le ballon qui est côté gauche, la bonne défense de Baptiste Roux et une touche dans la moitié de terrain guingampaise. 2 minutes 30 de jeu, Nico, 0-0 entre Guingamp et le Paris FC.
Oui, ça va être un match très intéressant parce que ce sont deux équipes, on le disait, qui tournent bien, qui ont des ambitions dans ce championnat avec une équipe du PFC qui vise clairement la montée en Ligue 1. Ils l'ont frôlé l'an passé et puis des Guingampais. Franchement, Xavier, s'ils arrivent à prendre une nouvelle fois les trois points et à faire un carton plein après trois journées, déjà, ils seront obligés de revoir leurs ambitions vraiment à la hausse.
Oui, non, mais clairement, là, l'ambition officielle, c'est effectivement de jouer le haut du tableau. Après, c'est difficile pour n'importe quelle équipe de se proclamer candidat à la Ligue 1. Alors, peut-être pour les équipes qui viennent de descendre, hein, telles Bordeaux et Saint-Etienne,
ouais,
évidemment.
Et encore.
Enfin, en tout cas, sur le papier, on va dire. Mais pour Guingamp, effectivement, on veut essayer de se mêler à la lutte et progresser dans le jeu. Et c'est vrai qu'il joue bien, avec notamment encore la Mouyumba pour Johan Katlin. Il est à l'angle de la surface de réparation. Livolant qui va récupérer le ballon. C'était bien Jérémy Livolant. Il aurait peut-être pu frapper avec un petit peu de spontanéité. Il a préféré se l'emmener. C'était compliqué et sa conduite de balle était un peu longue. Mais en tout cas, les Guingampais qui mordent déjà la part deux fois sur ce début du match. Donc on a envie d'essayer de reconstruire quelque chose depuis l'arrivée de Stéphane Dumont, un coach qui a des idées, qui parle très bien de foot. Hein, c'est très intéressant à ses conférences de presse. Personnage très agréable, très accessible, Stéphane Dumont. Et pour l'instant, c'est vrai que ça prend bien. On est reparti des bases parce qu'on avait encore un effectif il y a trois ans qui était avec des salaires de Ligue 1. On avait un petit peu fait, on va pas dire n'importe quoi, mais on avait explosé un peu la grille salariale lors des dernières saisons en Ligue 1. Donc on a un peu assaini le club, on va dire, et on repart sur une base qui est peut-être en train de prendre, à voir. Mais voilà, c'est agréable et le public revient. Et voilà, Stéphane Dumont, je trouve, correspond bien dans le profil, à l'ADN de ce qu'est ce club de Guingamp, club familial évidemment, qui ne doit pas péter plus haut que ce qu'il n'est. Voilà, c'est un petit peu ça. Non, mais certains disaient ça que sur les dernières saisons en Ligue 1, s'était vu un petit peu comme pour le club que l'on n'est pas. Donc voilà, Guingamp en tout cas est peut-être revenu sur le devant de la scène. On va pas s'enflammer. Il y a que deux journées, mais deux victoires de suite, comme je te le rappelais tout à l'heure, ce n'est jamais arrivé depuis 1985 à Guingamp. Donc c'est peut-être pas si anodin que ça. Le ballon qui traîne dans les airs au milieu du terrain, les Parisiens qui ont du mal à le poser. Hein, avec une tête d'Alimani Gori, c'est bien suivi par Vincent Manceau. Attention à Donatien Gomis qui s'est manqué. Il va s'en sortir quand même du bout du pied pour rattraper sa petite erreur. Vincent Manceau côté droit qui est contré. Ce serait une touche en faveur des Guingampais. Vincent Manceau aussi, c'est une bonne recrue hein, dans l'expérience. Lui qui n'a pas voulu prolonger au SCO d'Angers parce qu'on lui proposait, on le rappelle, qu'une seule saison. Donc il a quitté sa ville, il a quitté son club de toujours, pour continuer sa carrière un petit peu plus loin à l'ouest. Vincent Manceau, 5 minutes de jeu, 0-0 entre Guingamp et le Paris FC.
Ouais, joueur très fiable, Vincent Manceau. Il est 15h05 sur RMC, 0-0. On est avec Xavier Grimaud, bien sûr, hein, à Guingamp pour ce Guingamp Paris FC. Tiens, j'en profite pour vous donner les autres affiches de ce championnat de Ligue 2. Guingamp est leader hein, avec Caen. Ce sont les deux seules équipes qui ont 6 points, sinon derrière, il y a pas mal d'équipes à 4 points, hein. Une victoire, un match nul, notamment Bordeaux, Dijon, le PFC, Valenciennes, Grenoble. Les affiches, parce qu'à 19h, on a le Multiligue 2, on sera avec Johan Bredov. Tout à l'heure, Annecy-Laval, Bordeaux-Niort, les Bordelais aussi qui peuvent faire un joli coup au niveau du classement s'ils s'imposent à la maison. Dijon-Caen, celui-là, il va être intéressant aussi ce match à suivre. Le Havre-Pau, Metz-Valenciennes, Nîmes-Rodez, Bastia-Grenoble, Sochaux-Amiens, et puis lundi, Quevilly-Rouen recevra Saint-Etienne. On retourne à Guingamp avec Xavier. Guingamp
avec,
Paris FC.
Ouais, avec encore les Guingampais à l'attaque. Maxime Barthélemy pour Jérémy Livolant côté gauche. Il ne va pas réussir à redresser cette balle. Jérémy Livolant, le capitaine du soir, lui qui est formé ici à l'en avant Guingamp. C'était peut-être un petit peu long. Et il se parle d'ailleurs, Maxime Barthélemy et Jérémy Livolant, pour essayer de régler tout ça. Mais voilà, les Guingampais, encore une fois, qui s'étaient bien projetés, qui dominent ce début de match. Le ballon avec Paul Lannes qui est pas si loin de là hein, à Brest la saison dernière. En fin de contrat, il a signé donc au Paris FC, lui l'ancien Brestois qui aura peut-être quelques sifflets quand il touche le ballon. Brest et Guingamp, il y a une rivalité, mais bon, ça reste quand même gentil. Et le ballon,
c'est bon
côté
enfant, ouais.
Ouais, c'est bon enfant côté droit avec le pressing de Tristan Mouyumba. Ils n'arrivent pas à sortir hein, du tout les Parisiens. Ils sont pour l'instant acculés dans leur propre surface de réparation. On est obligé de jouer derrière avec Bernauer à côté droit pour Julien Le Cardinal. On va allonger vers Mehdi Chahiri. Il est pas mal cet appel. Chahiri qui va peut-être pouvoir relever ce ballon. C'était Pierre Ivamel qui a essayé de centrer justement pour Mehdi Chahiri. Et les Guingampais vont se dégager. Ça va donner une touche en faveur des Parisiens. Touche pour Alimani Gori. Peut-être Jonathan Iglesias qui va la faire. Non, on la joue vite finalement avec Mustapha Nam. On est à 40 mètres des buts de Guingamp. Ballon récupéré par Stéphane Kemper. Il y a peut-être un contre à jouer avec Johan Katlin qui se place dans le sens du jeu. Il repique dans l'axe. Le petit dribble derrière la jambe, on va insister côté gauche vers Kemper avec le nouvel appel de Johan Katlin. Il faut le tacle de Julien Le Cardinal pour détourner ce ballon en touche, récupéré par Tristan Mouyumba. On revient au milieu du terrain avec Dylan Luisser pour Kemper extérieur pour Mouyumba. On va revenir derrière vers Baptiste Roux qui ne va pas prendre de risque et repasser par son gardien Enzo Basilio. 8 minutes de jeu, 0-0, la domination des Costa-Mauricains face aux Parisiens depuis 8 minutes.
Oui, pour l'instant c'est Guingamp qui domine ce match de Ligue 2 entre l'en avant et le Paris FC à 19h. Je vous rappelle le Multi-Ligue 2. Il est 15h08, on est dans l'Intégral Sport. Dans quelques instants, on sera à Munich avec Valentin Jamin, avec Morgan Maury. On va notamment présenter les épreuves de triathlon et de BMX à venir avec Valentin Jamin parce qu'il y a de grandes chances de médailles françaises. Vous restez avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Nicolas Paolorsi.
15h11, c'est l'Intégral Sport. On est ensemble jusqu'à 16h. Je vous rappelle les événements de l'après-midi à 17h. Monaco-Rennes, ça va être un gros match. C'est de la Ligue 1, bien évidemment. À 21h, le Paris Saint-Germain affronte Montpellier. Puis dans quelques instants, on sera à Munich avec nos reporters Morgan Maury, Valentin Jamin pour revenir sur les différents championnats d'Europe. Mais il y a du live cet après-midi, la troisième journée de Ligue 2. Guingamp, Paris FC avec Xavier Grimaud. Xavier.
Et 12 minutes de jeu, 0-0 entre Guingamp et le Paris FC. La domination dans le jeu pour l'instant des Guingampais, même si les Parisiens se rapprochent là avec Pierre-Yves Hamel. La frappe de Pierre-Yves Hamel, Enzo Basilio regardez passer ce ballon, petit effet d'optique, c'était finalement assez loin des buts Guingampais, mais ça va donner la première frappe du match pour les Parisiens, alors que du côté de Guingamp, il n'y a pas de frappe comptabilisée, mais il y a eu quand même deux situations avec notamment un centre qui a été détourné au-dessus par Maxime Bernauer, une percée dans la surface de Jérémy Livolant. Malgré tout, première frappe du match en faveur du Paris FC. On va repartir côté droit pour les Guingampais avec Vincent Manceau, pour Donatien Gomis, avec Félix Eboa qui peut jouer pour Tristan Mouyumba. Ça c'est un petit peu équilibré, les Parisiens sont peut-être un petit peu mieux placés maintenant et Guingamp a un tout petit peu plus de mal à percer, peut-être ici avec Johan Kathleen qui est parti du milieu de terrain. Kathleen, il y a la course croisée de Jérémy Livolant, il va tenter sa chance, ambitieux à 25 bons mètres. Johan Kathleen s'est contré par Paul Lannes. On va insister côté gauche avec Mouyumba pour Kemper qui est suivi et pressé par les Parisiens. On revient derrière vers Baptiste Roux et vers Eboa. On va insister côté gauche avec Kemper. 0-0, 13 minutes de jeu entre Guingamp et Paris.
Ça va toi la chaleur, t'arrives à gérer, tu t'hydrates?
Ouais,
ça va.
Déjà je m'hydrate évidemment. Et non, il y a un petit vent qui est pas désagréable, donc franchement on avait presque plus chaud à Nantes hier où là c'était vraiment totalement étouffant à la Beaujoire où il faisait encore plus de 30 degrés au coup de sifflet final, donc là franchement pour moi c'est supportable. Par contre en plein soleil, les joueurs évidemment, je pense que le thermomètre dépasse les 40 en plein soleil, c'est certain, il y aura une pause fraîcheur dans 7-8 minutes a priori.
Moi je m'inquiète pour nos reporters, parce que des Bretons sous le soleil qui commentent un match à 37 degrés, je me dis que ça peut être dangereux, donc voilà. Je prends soin de toi Xavier. Tu nous dis dès qu'il se passe quelque chose, bien évidemment antenne ouverte. Il est 15h54 sur RMC, on va filer à Munich retrouver Valentin Jamin qui est envoyé sur les Jeux Européens. Salut Valentin.
Salut Nicolas, salut à toutes et à tous.
Bon Valentin, il y a plein de choses à vivre aujourd'hui avec toi. Tu vas nous commenter les épreuves de triathlon qui commencent à partir de 16h et du BMX. Mais on va parler du triathlon, Valentin, parce qu'on a un Français qui est le grand favori de la course de cet après-midi. Hein.
Oui, il s'agit de Léo Bergère. Peut-être que si je vous avais dit ça il y a 6, 7, 8 mois, vous m'auriez pris pour un fou, parce que Léo Bergère, dans la hiérarchie, on va dire, des triathlètes français, n'était pas tout en haut. On peut penser à Dorian Coninx, qui est là aujourd'hui, champion d'Europe en titre, il revient d'un petit bobo au mollet. Pierre Lecor, pourquoi pas, 32 ans, champion d'Europe en 2018. Eh bien non, c'est bien Léo Bergère aujourd'hui qui sera le favori sur cette course des championnats d'Europe. Il avait fait 21e au JO de Tokyo il y a un an, et puis cette année, il s'est complètement révélé, Léo Bergère, 26 ans. Il y a eu un déclic mental, un petit peu physique, mais c'est surtout dans la confiance, il le dit. Il a compris qu'il pouvait vraiment rivaliser avec les meilleurs. Il n'avait plus peur de ses adversaires, comme il pouvait avoir un petit peu avant une appréhension. Et ça a donné des résultats bluffants. Il y a un championnat, on va dire, un circuit mondial en triathlon qui s'appelle World Championship Triathlon Series. Et sur 4 courses, il a fait 3 podiums et une 4e place. Pour l'instant, il se classe 2e au classement du circuit mondial, juste derrière un Néo-Zélandais. Donc Léo Bergère, c'est du très très solide cette année. On va voir jusqu'où ça peut aller, mais effectivement, en l'absence du champion olympique norvégien Kristen Blummenfelt et du britannique Alexis qui avait fait 2e au JO, Léo Bergère s'affiche comme le favori, et c'est aussi ce que pense le directeur technique national du triathlon, Benjamin Mas, qu'on a rencontré hier. Vous pouvez l'écouter.
Et Léo, là aussi, lui, il franchit des étapes les unes après les autres. Je pense qu'il a, beaucoup plus confiance en lui. Il ose sur un certain nombre de courses. Il se permet plus de choses, et c'est tant mieux tant qu'il peut capitaliser dessus. Et je crois que c'est ce qu'il fait de manière remarquable. Et puis ça envoie des signaux forts aussi à la concurrence internationale pour lui en tant que tel, parce que 4 courses, 3 podiums, ça montre un petit peu son niveau, et forcément il peut lorgner sur une médaille au classement général mondial. Mais ça montre aussi la force de l'équipe de France, que ce soit chez les hommes ou chez les filles d'une manière générale. Voilà, il va falloir compter sur les Français sur les prochaines courses majeures.
Voilà, Léo Bergère qui est un des grands favoris, hein, Valentin, du triathlon. Alors il faut quand même un peu tempérer, parce que c'est vrai que dans ces championnats d'Europe, il n'y a pas forcément tous les cas d'or, en tout cas dans tous les sports, mais au niveau du triathlon, c'est important de marquer le coup à 2 ans des Jeux, hein, aussi pour ces triathlètes-là. Hein.
Évidemment, pour tous les triathlètes, les championnats d'Europe, c'est pas l'objectif majeur de la saison, parce que le circuit mondial dont on parlait, c'est quand même l'objectif majeur, mais une médaille sur un grand championnat, évidemment, c'est pas tous les jours, et Léo Bergère va devoir se méfier, notamment du Belge Jay Leggins, qui lui est troisième juste derrière lui au classement du circuit mondial. Voilà, beaucoup en fait des tout premiers sur ce circuit mondial sont européens. Il y a juste le Néo-Zélandais qui est premier, donc effectivement, t'as raison, il y a une grosse densité. et Léo Berger en plus, bah on sait pas vraiment comment il peut réagir face à tant de pression. Okay. On en parle par exemple aujourd'hui à l'antenne, on va voir comment lui vit ça parce que c'est une première pour lui aussi.
Valentin, on revient vers toi très très vite, mais à 15h17 sur RMC, c'est l'heure du quintet. On file à Clairefontaine avec Fred Kita. Salut Fred.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Effectivement, quintet plus disputé à Clairefontaine aujourd'hui avec 15 concurrents au départ âgés de 3 ans sur la distance de 1800 mètres et pour l'instant, on a le numéro 7 Dr Run qui est très bien placé en première position devant le numéro 12 Adaman. En troisième position, on a la favorite, le numéro 3 Final Gesture qui commence à attaquer et c'est toujours le numéro 7 l'animateur, le Dr Run qui a l'avantage devant ce numéro 12 qui est Adaman et ils sont un peu éparpillés sur toute la largeur de la piste. Le numéro 3 Final Gesture vient pour l'instant en troisième position. On a également un bon rapproché notamment du numéro 5 Everman. On a Great Rotation, le numéro 2 qui est bien placé, mais c'est toujours le numéro 7 qui a l'avantage. Ils sont non loin du but à 150 mètres du poteau, toujours le numéro 7 en tête, mais il est attaqué par un concurrent qui a fini très très vite son parcours. C'est probablement le numéro 8 Mash Media qui était en vue dans cette épreuve, monté par Christophe Soumillon qui s'impose dans cette épreuve, entraîné par Romain Lodren de Loz qui s'impose. Donc le numéro 8 à la cote de 7 contre 1. Ensuite c'est très serré, on a notamment l'animateur, le numéro 7 Dr Run qui est bien placé, mais c'est le 3 Final Gesture qui semble conserver la deuxième place. Ensuite photographié entre le 7 et le numéro 11 pour la troisième position et la quatrième place pour le numéro 2 Great Rotation. Je récapitule l'arrivée provisoire du quintet, le 8 devant le 3, ensuite la troisième place photographiée entre le 7 et le 11 et la cinquième place pour le numéro 2.
Merci Fred.
Que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
15h18 sur RMC. On est dans l'intégral sport. Avant de retrouver Valentin Jamin à Munich, on va faire un point sur le temps et le score à Guingamp. Troisième journée de Ligue 2, Guingamp PFC avec Xavier Grimaud.
Ouais, 19 minutes de jeu à Roudourou. Toujours 0-0. Un corner il y a quelques instants pour les Guingampais. Dégagé par le capitaine parisien Florent Hanin. 0-0.
Merci Xavier. À tout de suite. Valentin Jamin est envoyé spécial de RMC à Munich en Allemagne pour les championnats d'Europe. On a parlé triathlon avec le gros espoir de médaille pour Léo Berger.
Je précise juste Nico que Vincent Louis, un des gros cadres de l'équipe de France, a décidé de faire l'impasse. Voilà, on n'a pas parlé, c'est pour ça.
Parce que c'est vrai que Vincent Louis, c'était une des grandes chances de médaille de la délégation française l'an passé lors des Jeux de Tokyo.
Exactement.
Un petit mot sur les femmes, parce qu'on a une prometteuse troisième place d'une Française, Valentin.
Oui, Emma Lombardi qui a fini troisième hier, elle a seulement 21 ans, première année senior pour elle. Elle était double championne de France chez les juniors, championne du monde du 23 l'an dernier, mais elle découvre le circuit chez les seniors cette année. Elle avait terminé quatrième justement d'une de ces World Championship Series de triathlon, sa toute première chez les grandes, donc elle avait fini quatrième, grosse perf, et la première médaille directement sur un grand championnat, donc deuxième derrière une Britannique et derrière une Allemande. On attendait plus Cassandre Beaugrand qui a fini cinquième, qui était dans un jour sans physiquement, malheureusement pour Beaugrand qui avait été médaillé de bronze en 2018. Et donc Emma Lombardi a pris le pouvoir, non peut-être pas, mais en tout cas a pris le relais. Et là encore on a une très belle densité, on n'oublie pas Léonie Perriot qui avait eu un petit problème physique, mais encore une fois ça prouve que le triathlon féminin aussi est très performant. Et quand je vous dis 21 ans, évidemment pour les Jeux 2024 concernant Emma Lombardi qui va prendre de l'expérience, qui va encore progresser, c'est très très prometteur. Donc magnifique médaille pour Emma Lombardi hier, la troisième place du podium.
Bon, on va suivre tout ça hein, notamment le triathlon masculin, ça commence à partir de 16h avec toi, mais tu vas également suivre depuis le parc olympique de Munich à 19h les épreuves de BMX freestyle, où là, alors là c'est plus un favori qu'on a, c'est qu'on serait déçu si Anthony Jean-Jean n'est pas sacré champion d'Europe.
C'est un peu ça. En fait, il nous a habitués aussi. C'est un petit peu de sa faute, Anthony Jean-Jean. Il a remporté l'épreuve en 2019, il a remporté l'épreuve en 2021. En fait, il est le seul à avoir été champion d'Europe, puisque les championnats d'Europe, c'est tout récent. Donc, Anthony Jean-Jean a gagné les deux jusqu'ici. Il est encore là, il est encore présent. Évidemment, favori avant la compète, encore plus après les qualifications qu'il a terminé facilement, j'ai envie de vous dire, la première place. 5 points d'avance sur le deuxième. Hein. On rappelle, donc, il y a 2 runs en qualification, 2 manches. Les riders font des figures, font des sauts qui sont notés par des juges. On prend la moyenne des notes sur chaque manche et ensuite on fait la moyenne des 2 moyennes, voilà, de chaque manche pour faire une note générale. Et bref, il a terminé premier.
Je sais pas si c'était super clair, mais j'ai compris quand même un peu.
Dans l'idée, il a eu les meilleures notes en moyenne, Anthony Jean-Jean. Et donc facilement. Et en plus, le plus coriace concurrent, on va dire, qui était Declan Brooks, un Britannique qui a fait 3e aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il est tombé malheureusement en qualif et donc il est forfait. Donc Anthony Denis Jean-Jean, là c'est clair, il a la pression sur lui. Il espère évidemment de nouveau gagner et faire la passe de 3, d'autant qu'il a eu une déception l'été dernier. C'était les Jeux où il fait 7e après être tombé lors de son deuxième run, donc son deuxième passage en qualification, ce qui ne l'a pas permis d'avoir une bonne note. Anthony Jean-Jean, il a beaucoup appris d'ailleurs de ces JO et il se sent encore meilleur, c'est ce qu'il nous a dit après ses qualifs.
Je me sens bien, j'ai beaucoup travaillé ces deux dernières années, notamment avec les Jeux Olympiques, j'ai beaucoup appris. Les Jeux m'ont beaucoup servi, j'ai énormément appris aux Jeux. J'ai vu tout ce que je faisais qui était très bien et qui était positif et tout ce que j'avais à améliorer dans mon entraînement. Ouais, j'ai beaucoup travaillé techniquement en vélo et physiquement pour être le plus près possible. J'ai énormément travaillé mentalement aussi avec ma préparatrice mentale. Donc j'ai fait énormément de travail sur cet hiver et ça se ressent sur le vélo, je me sens beaucoup mieux. Donc non, c'est cool, j'aurai une bonne lancée et j'espère que ça continue.
Anthony Jean-Jean, pardon, qui est le grand favori de l'épreuve de BMX Freestyle. Ce sera à suivre avec toi, Valentin Jamin, à partir de 19h en direct de Munich. De toute manière, dès qu'il y a une médaille française, hein, Valentin, tu sais ce qu'il faut faire. Clac, tu nous appelles et tu prends l'antenne. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
Avec plaisir, à tout à l'heure.
Il est 15h23, l'Intégral Sport sur RMC. On retourne à Guingamp, troisième journée de Ligue 2, Guingamp PFC, Xavier Grimaud.
Et la 23e minute, 0-0, toujours entre Guingamp et le Paris FC. La domination des Guingampais, déjà en possession. Session et en situation, en menace, même si Filipovic, le gardien de Paris, n'a pas eu d'arrêt à faire véritablement. Là, les Parisiens qui vont avoir du mal à se dégager avec Bernauer. Ce serait une touche tout proche de la surface de réparation. Touche pour Vincent Manceau. Il va peut-être pouvoir chercher Johan Katlin qui avait fait l'appel. Il est suivi par Florent Hanin. Katlin, il va quand même être servi. Le jeu de corps, pas mal. Faut centrer pour Katlin. Le centre au deuxième poteau en louche. La tête, heureusement, d'Alimani Gori pour sortir ce ballon. Il était venu défendre comme un arrière droit, lui l'ailier droit du PFC. On va rester haut du côté des Guingampais avec maintenant côté gauche Kemper avec Baptiste Roux qui n'a pas de solution. Il va peut-être devoir revenir derrière vers Félix Eboa. La 24e, 0-0 entre Guingamp et le Paris FC. L'ouverture de Félix Eboa pour Vincent Manceau, la tête de Florent. Attention, le second ballon, il est pour Jérémy Livolant. Il y a une possibilité avec la reprise de volée difficile de Maxime Barthélemy parce que le ballon lui est venu de l'arrière. C'était très dur, ça a été manqué. 0-0 toujours donc entre Guingamp et les Parisiens.
Ça joue vraiment bien Guingamp en ce début de saison, ça il faut le dire. On te retrouve très vite Xavier, je vous parlais tout à l'heure d'un match de Première Ligue entre Aston Villa et Everton. Pour l'instant, on est dans le temps additionnel du match, 94e minute, 2-1 pour Aston Villa. Le match entre Steven Gerrard et Frank Lampard sur les deux bandes touches, ouais c'est la classe. Ça c'est la classe. Dans quelques instants, après Valentin Jamin, on retrouve Morgan Mori à Munich également. On parlera cyclisme sur piste et escalade. Et puis je vous rappelle, à 17h, le premier match de Ligue 1 de cette journée avec l'AS Monaco qui reçoit Rennes. Hier, Nantes et Lille se sont départagés sur le score de 2-1 partout. Vous restez avec nous, c'est l'Intégral Sport sur RMC. A tout de suite.
RMC.
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Nicolas Paolorsi.
Vous êtes dans l'Intégral Sport, on est sur RMC jusqu'à 16h, il est 15h29. On va retourner tout de suite à Guingamp. Ce match de Ligue 2, la troisième journée entre l'en avant Guingamp et le PFC avec Xavier Grimaud sous la canicule bretonne.
Et oui, la 30e minute, 0-0. Et on attend quand même des occasions un peu plus franches dans cette rencontre avec le match qui est finalement assez équilibré. Hein. Guingamp a été un peu plus menaçant, mais n'a pas eu de véritable occasion franche sur le but de Filipovic. Il n'a pas eu plus sur le but de Basilio. Là, il y a une tentative manquée de Gori en demi-volée qui est passée largement au-dessus des buts du gardien Guingampais. Donc, pour l'instant, le match est quand même assez équilibré et assez ouvert pour cette rencontre. On a eu la pause fraîcheur tout à l'heure avec, évidemment, on s'est hydraté et du côté de Guingamp, on avait des serviettes, des serviettes fraîches qu'on a mises sur la nuque de chaque joueur pour essayer de baisser la température corporelle parce qu'effectivement, il fait très chaud, 35 à 37 degrés au coup d'envoi. Le ballon qui est proche du poteau de corner des Parisiens. Il y aura une faute finalement de Stéphane Kemper qui va permettre aux Parisiens de se dégager. Voilà, bon, le jeu est plutôt guingampais, mais franchement, on reste un tout petit peu sur notre faim pour l'instant en ce beau samedi après-midi. La 31e, toujours 0-0 entre Guingamp et le Paris FC.
Ouais, mais on a senti quand même lors de cette pause fraîcheur que les joueurs souffraient de la chaleur, bien évidemment, déjà touchés physiquement pour certains à la 25e minute. On revient très vite vers toi, Xavier, pour suivre la fin de cette première période, mais à 15h31, on va poursuivre notre tour des championnats européens qui ont lieu tout au long du week-end et même de la semaine hein, sur RMC. On va retrouver Morgane Maury en direct de Munich. Salut Morgane.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Morgane, tu as suivi pour RMC les épreuves de cyclisme sur piste. Une superbe journée hier hein, pour nos équipes de France. Parce qu'en plus, on alignait des pistards qui étaient très jeunes. Donc dans l'optique de Paris 2024, c'est vraiment une bonne nouvelle ce qui s'est passé à Munich. Hein.
Oui, une super soirée. Je vous fais rapidement le bilan. Deux médailles d'or, donc deux Marseillaises pour la poursuite homme. Thomas Bouda, Thomas Denis, Valentin Tabellion, Quentin Lafargue et Benjamin Thomas. Ce même Benjamin Thomas, deux heures plus tard, est allé chercher la médaille d'or dans la course au point. La médaille d'argent pour la vitesse par équipe. Ryan Hellal, Sébastien Vigier, Timmy Gillion battus par l'équipe la plus dominante du moment, les Néerlandais. Et le bronze, ça c'est une très bonne nouvelle. C'est nouveau qu'une équipe de France féminine de poursuite aille chercher une médaille de bronze. Clara Copponi et Victoire Berthaud, Marion Bourras et Valentine Fortin sont des groupes qui sont constitués depuis plusieurs années et qui arrivent à maturité maintenant, et Nicolas, avec l'objectif bien sûr de Paris 2024, ces épreuves de cyclisme sur piste qui se courront au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et on n'a pas que 4 coureurs, on a 5 voire 6 coureurs, c'est le cas de la poursuite homme. Ils étaient 5 hier avec un remplaçant, on peut même ajouter Corentin Hermenot. Cette densité qui fait progresser les Bleus. Je vous propose d'écouter l'un des hommes en or, Valentin Tabellion, sur ce qui fait la force de ce groupe France.
Valentin Tabellion, est-ce qu'il est là, Valentin ?
Le mot, c'est vraiment confiance. Je pense qu'il faut qu'on appuie sur le fait qu'on soit un vrai groupe. On a formé un vrai noyau. On sait qu'on peut avoir chacun confiance en l'un ou en l'autre et que le travail sera assuré, que ce soit Quentin, que ce soit enfin, les trois qui finissent. On sait que le job, il sera fait. Et on ne doute jamais, en fait. On a confiance en nous, en nos partenaires et au travail qu'on a fait avec le coach. Et je pense que c'est ce mot-là qui fait qu'on peut en être là aussi, c'est qu'on a confiance en nous et on a un vrai, vrai groupe.
Ouais, on sent de l'appétit hein, chez Valentin Tabellion et chez les membres de cette équipe de France. Alors Morgane, faut peut-être quand même un petit peu relativiser parce que certes on a des résultats, tous les cadors ne sont pas non plus là, c'est prometteur, mais voilà, il y a certains grands noms de la discipline qui ont fait le choix de pas participer à ces championnats d'Europe. Hein.
Oui, bien sûr, c'était le championnat sur lequel on pouvait, pourquoi pas, se reposer, puisque l'an prochain, il y aura championnat d'Europe et championnat du monde au cœur de l'hiver, des championnats du monde qui auront lieu en France, au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et on sait que les Russes, qui est une nation forte hein, dans les épreuves de vitesse notamment, n'est pas invité, n'avait pas le droit de participer à ces championnats d'Europe à Munich. Donc, à relativiser un tout petit peu, mais c'est prometteur. En tout cas, vous l'avez entendu, ces Français ont la niaque. Ils ont faim, on va les suivre jusqu'à Paris 2024. Et juste un mot sur Benjamin Thomas, l'homme fort d'hier. On l'a vu sur le Tour de France il y a 2 semaines avec l'équipe Cofidis. Il avait failli arracher la victoire sur l'étape de Carcassonne. Il avait été repris à 400 mètres de l'arrivée. Derrière, il a pris 15 jours de vacances. Il n'a pratiquement pas fait d'entraînement, pas de spécifique piste. Il s'est entraîné pour la première fois sur cet anneau de Munich 3 jours avant sa compétition. Et bien, la preuve qu'il y a un état de forme. On reste en haut de son pic de forme pour Benjamin Thomas. Écoutez ce qu'il allait chercher dans ses déceptions, dans ses moments du Tour de France pour aller claquer ses 2 maillots de champion d'Europe hier en poursuite par équipe et lors de la course au point.
Ça prouve que voilà, il faut tout de suite rebondir. Pour moi, le Tour de France a été une grande réussite sur le plan personnel. J'ai vécu des expériences, des émotions spéciales de jouer la gagne sur une étape du Tour de France, c'est vraiment rare, il faut en profiter et il ne faut pas se lamenter. J'ai pas de remords, j'ai donné le meilleur de moi-même ce jour-là. Et au final, c'est quelque chose qui m'a servi, qui donne la rage et qui donne envie de revenir. Et qui fait que voilà, même sur derrière 2 semaines après, sur un championnat d'Europe, j'ai toujours cette même rage, cette même envie de performer, de gagner. Et ça me donne encore plus envie de revenir justement l'an prochain au Tour pour revivre cette adrénaline de la victoire.
Voilà Benjamin Thomas qui était sur le Tour de France il y a 2 semaines et qui là va chercher deux titres européens, histoire assez dingue du coureur de Cofidis qu'on retrouvera probablement au jeu de Paris 2024.
Demain il est sur route, il participe à la Polynormande, il a pris l'avion ce matin pour Paris et va à Avranches pour courir avec Cofidis l'épreuve la Polynormande.
Ah, il enchaîne Benjamin Romain Thomas, programme chargé. On sait qu'après le Tour de France, en général, il y a certains coureurs qui font le choix de souffler. Lui, pour le coup, c'est pas le cas. Il est 15h36 sur RMC. Juste avant de te retrouver, Morgan, on va faire un point sur le temps et le score à Guingamp. Guingamp pas AFC, Xavier Grimaud.
Oui, la 36e, toujours 0-0. Petit coup de stress là sur le but Guingampais avec le bon travail d'Alimani Gori. Ça arrive sur un centre de Florent Hanin et peut-être un contact. On aurait pu penser un pénalty sur Alimani Gori, ouais, mais il était en position de hors-jeu au départ de l'action. Mais petit coup de chaud malgré tout. 36e minute, 0-0 dans ce match qui maintenant clairement est très équilibré.
Franchement, s'il n'y avait pas eu hors-jeu, je pense que il y avait pénalty. Vu les images, je pense qu'il y avait pénalty. Merci Xavier, on revient très vite te voir. 15h36, on retrouve Morgan Maury à Munich. On parlait des championnats d'Europe de cyclisme sur piste qui sont très bien passés pour notre équipe de France. Morgan, tu es également.
C'est pas fini.
C'est pas terminé, bien sûr.
C'est pas terminé la piste. Sébastien Vigée, Ryan Ellal, juste pour ne citer qu'eux, qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la vitesse individuelle. Ça commence tout à l'heure à 17h30. Une vraie carte à jouer pour les deux garçons.
Morgan, tu vas suivre pour nous également les épreuves d'escalade. On a déjà une Française qualifiée en finale. Hein.
Oui, c'est l'épreuve de la difficulté. La difficulté, c'est une voie qui est changeante à chaque tour de la compétition. Elle est cachée aux compétitrices. Elles ne la découvrent que quelques minutes avant leur passage. Elles vont ensuite s'isoler dans une salle. Et ensuite, l'objectif, c'est d'aller le plus haut dans un temps imparti. Et la fille qui allait le plus haut l'emporte. Manon Illy a très bien réussi sa demi-finale puisqu'elle s'est qualifiée en deuxième position derrière la Slovène Jean-Jacques Garnbret, qui est la grande star de la discipline. La grande star de l'escalade, qui a été championne olympique du combiné à Tokyo, qui est multiple championne du monde. Très bonne qualification donc de Manon Elie. Hélène Janico, elle, a été éliminée. La finale, c'est à partir de 16h. Je vous propose d'écouter la satisfaction de la grimpeuse de Manon Elie tout à l'heure.
Hyper cool, c'est un peu le moment le plus stressant pour moi, les demi-finales. Je suis plutôt forte en qualif et en demi-finale, souvent j'ai des petites erreurs. Et là, apparemment, j'ai bien grimpé. Enfin, moi, j'avais l'impression de bien grimper, mais dans le résultat, en plus, ça va avec mes sensations. Du coup, je suis hyper contente. Et de me dire qu'il faut que j'ai confiance juste en moi. Et si j'ai confiance en moi, le niveau, et si je donne tout ce que j'ai, que je sois 5e, 3e, 1ère, ça sera pareil, quoi.
Manon Elie au micro de Morgan Maury. Les épreuves d'escalade ultra spectaculaires, hein, Morgan, qu'on a vraiment découvert lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo, avec notamment des Français, hein, chez les hommes. On se souvient des frères Mawen. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont présents pour les épreuves masculines, oui, les frères Mawen?
Oui, on a vu Michael Mawen tout à l'heure sur la demi-finale du bloc. Malheureusement, ce n'est pas passé pour lui. On trouvera son frère Bassa sur la vitesse dans deux jours. C'est sa grande spécialité. Voilà, ce mur à essayer de grimper le plus rapidement possible. Sam Avzou et Majdi Chalk se sont qualifiés pour la finale du bloc. Le bloc, c'est quatre problèmes qu'on vous propose, que vous découvrez là aussi sur des voies extrêmement courtes, mais extrêmement compliquées. Et il s'agit d'arriver soit au milieu et le mieux, c'est d'arriver au sommet pour marquer des points. Ils font partie des 6 qualifiés pour la finale. Donc deux Français en finale du bloc, Sam Avezou et Majdi Chalk, qui a déjà remporté une épreuve de Coupe du Monde. C'est à 17h30 la finale du bloc. Donc des chances de médaille en escalade pour les Bleus.
C'est bien dit, Morgan. Il est fort, ce Morgan Maury. Juste très court, Morgan, mais on a également une chance de médaille en gymnastique avec notre équipe de France féminine qui partira en dernière rotation. Hein, donc voilà, mais elles sont dans le coup, nos Françaises.
Oui, elles sont dans le coup, Nicolas. Elles étaient très mal parties, les Françaises. Elles ne sont pas dans le coup parce qu'elles ont raté leurs premiers agrès, et Nicolas. Elles sont en train d'en terminer. C'est notamment la poutre qui a été fatale aux Françaises. Pour l'instant, elles sont en 3e position provisoire. La compétition n'est pas terminée. Des équipes n'ont pas encore envoyé leur dernière gymnaste. Les Italiennes et les Britanniques, qui sont les grandes favorites, devraient passer devant et éjecter la France du podium. Voilà, la France est déjà 4e. La France était 7e avant la dernière rotation, Nicolas. Donc malheureusement, Caroline Aiduy, Marine Boyer, Laurette Charpie, Morgane Osisek-Remer, qui rêvaient de cette médaille par équipe, ne la prendront pas. Elles avaient donné rendez-vous après le concours général. Elles voulaient cette médaille. Oui. Pour repasser, ce sera demain pour l'épreuve, les finales par agrès, où les Françaises sont 4 à être qualifiées chacune sur un agrès. Ça pourra rigoler peut-être demain.
Dommage, ça ne passe pas pour notre équipe de France de gymnastique. Merci beaucoup, Morgane. Dès qu'on a une médaille française, bien évidemment, antenne ouverte. Tu viens nous commenter tout ça, bien évidemment, en direct de Munich, en Allemagne. Merci beaucoup, Morgan Maury. Il est 15h40. On est dans l'Intégral Sport sur RMC. On retourne à Guingamp Paris FC, Xavier Grimaud.
Et on entre dans les 5 dernières minutes de cette première période. Toujours 0-0 entre Guingamp et le Paris FC. Affiche équilibrée, à défaut d'être totalement convaincante, puisqu'on attend toujours une grosse occasion, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Le jeu qui a été un petit peu heurté aussi avec d'abord Maxime Bernauer, le défenseur central du Paris FC, qui s'est fait mal, qui s'est fait soigner, et ensuite c'est Julien Le Cardinal également qui s'est fait soigner. Donc pour le moment Paris était à 10, mais le jeu est reparti. Peut-être Mehdi Chaïri, c'est bien joué avec Paul Lannes qui la laisse passer. C'est Pierre Ivamel qui laisse le ballon passer avec ce centre venu de la gauche de Mehdi Chaïri. Il y avait Jonathan Iglesias qui suivait derrière. Il faut le retour in extremis du bout du pied d'un Guingampais pour dégager cela. On a l'impression quand même que Paris est en train d'appuyer un petit peu, de prendre un peu le dessus sur cette fin de première période. Les Guingampais qui sont tous d'ailleurs dans leurs 30 derniers mètres. On va continuer côté gauche avec Florent Hanin pour Paul Lannes pour Hanin. C'est bien joué, Hanin dans la surface, le centre, deuxième poteau, il n'y a personne qui peut la reprendre. Belle situation encore, Pierre Ivamel qui s'est jeté pour essayer de couper ce centre de Florent Hanin, mais là encore le 1-2 entre Hanin et Paul Lannes, c'était très bien fait. Ça avait mis hors de position.
C'était vraiment très bien joué, Xavier. Ce qu'on va faire, c'est que vu que ça s'emballe chez toi, on va rapidement partir en pub pour suivre la fin de cette première mi-temps. Il est 15h42, vous restez avec nous, c'est l'Intégral Sport sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Nicolas Paolorsi.
h 44, l'Intégral Sport sur RMC. Dans un peu plus d'un quart d'heure, vous retrouvez Arnaud Valadon pour la suite de l'Intégral Sport. Il vous a préparé un petit menu savoureux avec, en point d'orgue, à 17h, ce match entre Monaco et Rennes. Match qu'on attend avec impatience parce que c'est tout simplement le premier choc entre deux grosses équipes de notre championnat depuis le début de saison. On a hâte de voir cette opposition. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain affrontera Montpellier à 21h avec Clément Brossard, avec Julien Landry au Parc des Princes, avec la première de Kylian Mbappé. Et puis il y a bien évidemment nos championnats d'Europe, nos Jeux Européens en natation à partir de 18h, toutes les finales avec Julien Richard, et puis dès qu'il y a une médaille en escalade, en triathlon, en BMX, Valentin Jamin et Morgan Maury qui sont en Allemagne à Munich nous appellent et viennent nous commenter tous ces événements. Nous on file du côté de Guingamp pour la fin de cette première mi-temps. C'est la troisième journée de Ligue 2, c'est un choc entre le collider l'en avant Guingamp et le Paris FC qui est un prétendant à la montée. Toujours 0-0, Xavier Grimaud.
Oui, on est proche, très proche de la mi-temps. 1 minute 30 encore à jouer dans le temps additionnel. Il y a eu 2 minutes avec la pause fraîcheur et quelques blessures. On a vu une frappe de Julien Le Cardinal, il était très loin, qui a été capté facilement par Enzo Basilio, et je regardais, c'était la première frappe cadrée à la 43e. Donc ça place aussi quand même le côté, le spectacle que l'on voit dans ce match qui est un petit peu décevant. Les deux équipes qui se neutralisent assez bien, et derrière une situation guingampaise malgré tout avec une bonne ouverture pour Johan Katlin. Maxime Bernauer est un petit peu court, il tente le lob sur Filipovic, mais le gardien parisien qui était bien placé, et qui surtout le lob de Katlin qui a manqué un petit peu d'amplitude, il a pu capter ce ballon. On verra si on va réussir à avoir une dernière situation avant la pause avec Muyumba au milieu du terrain. Là il est face à trois parisiens, il va prendre un risque, il va la perdre. Jonathan Iglesias, le mauvais contrôle du bout du pied, il peut jouer quand même avec Mehdi Chaïri qui joue une touche de balle. Elles sont pas bonnes ces ouvertures à Mehdi Chaïri, ça rend fou. Thierry Loret, tout à l'heure, il avait fait un petit festival avec un grand pont, un petit crochet, c'était vraiment très bien fait, mais il a totalement manqué son ouverture derrière qui semblait quand même assez facile. Donc il y a aussi de l'imprécision dans cette
Paris
rencontre.
Récupère quand même le ballon beaucoup plus haut, Xavier.
Clairement, on va dire qu'il y a eu 25 minutes où les Guingampais semblaient plus cohérents et plus dangereux. Après franchement Paris est meilleur sur cette fin de première période, c'est assez clair, il récupère mieux le ballon, et même on a vu quelques situations très bien amenées qui ont mis hors de position la défense guingampaise. Il reste 10 secondes, je ne suis pas sûr qu'on en voit une dernière, avec peut-être ici Gori servi par Hanin pour Mehdi Chaïri qui va jouer le 1 contre 1 face à Donatien Gomis. Le petit ballon, il est bon celui-là, ce ballon s'est détourné de la tête par Stéphane Kemper. C'était Alimani Gori qui était au duel, et monsieur Paradis, Guillaume Paradis, l'arbitre de cette rencontre, qui siffle la mi-temps sur ce score de 0-0. Un petit peu décevant pour le moment, on espère un peu plus de, les joueurs se lâcheront un peu plus en deuxième période. 0-0 entre Guingamp et le Paris FC.
Tiens, merci Xavier. Tu bouges pas Xavier parce qu'on voulait t'avoir un petit peu sur le Stade Rennais qui affronte Monaco tout à l'heure, et on voulait notamment parler avec toi de l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo, savoir s'il allait jouer. Donc tu bouges pas, j'en profite juste pour vous donner quelques résultats dans les autres championnats européens parce que ça joue en première ligue. Victoire d'Aston Villa de Buzyn contre Everton, le match entre Steven Gerrard et Frank Lampard, donc les deux coachs. Et puis ça joue en Allemagne 0-0 actuellement entre Leipzig et Cologne. Le Bayer Leverkusen est mené contre Augsbourg. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme résultat, on a Bochum qui mène contre Hoffenheim en Espagne. Je vous donne quelques affiches. À 17h, le Celta Vigo affronte l'Espagnol. Valladolid affronte Villarreal à 19h, et à 21h, le Barça joue contre le Rayo Vallecano. Xavier, on le disait tout à l'heure, Monaco-Rennes à 17h. Match important pour les Rennais, Xavier, parce qu'ils sont passés à côté la semaine dernière contre Lorient. Toi qui les suis, dans quel état d'esprit ils sont, notamment avec l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo, recruté 25 millions d'euros au PSG en fin de semaine?
Ils sont revanchards parce qu'ils savent qu'ils ont pas forcément manqué leur match, parce qu'ils dominent quand même cette équipe de Lorient. Ils ont manqué d'efficacité, mais il y a plusieurs cadres, on va pouvoir les citer, qui n'étaient pas leur niveau habituel, à commencer par Benjamin Bourigeaud qui était en dedans. Il est sorti du terrain très énervé, il sait qu'il a raté son match, Benjamin Bourigeaud. Lovro Maier aussi a joué avec un petit peu, avec moins de facilité que d'habitude, avec des gestes un peu superflus. Ça a été compliqué. Gaëtan Laborde, lui, a été dans son registre habituel, mais n'a pas eu beaucoup d'occasions et surtout pas d'efficacité. Donc voilà, Bruno Genesio les attend un petit peu au tournant pour donner plus face à un gros adversaire, parce que Monaco, c'est évidemment un choc pour l'Europe et pour deux candidats au podium. Et c'est pas anodin de voir Arnaud Kalimuendo arriver. C'est que Bruno Genesio veut plus de concurrence en attaque. Plus de concurrence avec qui? Alors pas forcément avec Gaëtan Laborde, parce qu'il y a une possibilité de changer de système. Ça paraît un peu tôt pour le faire dès cet après-midi. On aura les compos dans un instant. Mais alors, j'ai pas encore l'info, mais voir Arnaud Kalimuendo titulaire deux jours après son arrivée à la pointe de l'attaque rennaise ne me surprendrait pas plus que ça, parce que clairement Gaëtan Laborde est un petit peu en méforme, et Bruno Genesio veut mettre Kalimuendo. Et Kalimuendo, on le sait, il l'a dit en quittant Paris, il est revenu jouer à Rennes pour avoir du temps de jeu. Donc et en plus il est en forme, il a fait une bonne préparation, donc ce sera intéressant de voir le 11. On pourrait voir aussi un titulaire sortir pour peut-être Jérémy Doku, parce qu'il y a une grosse concurrence à Rennes, et quand on pêche sur un match, et bien Bruno Genesio a dit maintenant il fera peut-être un peu plus de turnover, ce qu'il avait manqué. Bon, ce qui est sûr, c'est que le mois d'août, il va être animé. On a le sentiment que le mercato, ça va encore bouger pas mal, avec des cadres qui pourraient partir, qui pourraient être évidemment encore sollicités, et des nouvelles recrues. Rennes a des capacités de financement, des capacités d'investissement. Serou Guirassy notamment n'est pas dans le groupe.
Ouais.
On sait que ça se rapproche, les discussions avec deux clubs anglais en priorité, Everton, Wolverhampton aussi serait venu dans la danse. Donc Guirassy est peut-être partant dans les prochains jours. Et si Guirassy s'en va, pas sûr que Kalimuendo soit le seul remplaçant pour Serou Guirassy. Donc pourquoi pas voir encore une recrue offensive du côté de Rennes. Donc voilà, il n'y a pas encore de pression, on ne fait pas dans le catastrophisme, mais il faut au moins que dans le répondant et dans ce que Rennes va montrer à Monaco, il soit clairement dans les mêmes aptitudes que la saison dernière.
Merci beaucoup Xavier, on te retrouve pour la deuxième mi-temps de Guingamp PFC. Bien sûr, ça c'est de la Ligue 2, mais on voulait t'avoir pour parler du Stade Rennais et de l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo, donc qui, bien sûr, on attend les compos, mais selon Xavier, pourrait démarrer cette rencontre à la place de Gaëtan Laborde. 15h51 dans l'Intégral Sport sur RMC. On va retourner à Munich, on le disait tout à l'heure avec Morgane Maury. Morgane, tu nous appelles dès qu'il y a un résultat. Il y en a un qui vient de tomber, c'est pour l'équipe de France de gymnastique. Morgane, bon, tu nous le disais tout à l'heure, mais ça se termine mal pour les filles cette journée.
Oui, journée sans médaille, 6e position pour les Françaises, un total de 155 points, 162. C'est la poutre qui a été fatale aux Françaises, seulement 35 points. Quand vous tournez autour de 40, on peut dire que c'est bien, c'est très bien. Voilà, la poutre a enterré les espoirs tricolores. C'est l'Italie avec les sœurs D'Amato, dont l'une qui a été championne d'Europe cette semaine, championne d'Europe du concours général, qui s'impose avec 4 points d'avance sur les Britanniques. 3e position pour l'Allemagne. Les Françaises, elles terminent 6e. On retrouve les Bleus demain, Nicolas, pour les les finales par agrès. Oui. Elles seront 4 sur les finales par agrès. Aline Friis, notamment au saut de cheval, qui a été remarquable à la fois lors du concours général et aujourd'hui lors du par équipe. C'est la meilleure chance de titre. Caroline Deluy à la poutre. Laurette Charpie au bar asymétrique. Et Morgane Ossisek-Remer qu'on retrouvera, elle, sur l'épreuve du sol. 6e position. C'est une déception pour l'équipe de France féminine de gymnastique artistique. Je suis actuellement au site de l'escalade. Et oui. Les 8 finalistes sont en repérage. Elles ont quelques minutes pour ausculter avec leurs petites jumelles ce mur qui se dresse devant elles sur la Königsplatz de Munich.
Rappelle-nous le concept déjà de l'épreuve du mur, Morgane.
De l'épreuve de la difficulté. Alors, c'est une voie qui a été tracée il y a quelques minutes seulement par des ouvreurs à l'aide bien sûr de grues pour aller tout en haut. On bouge les blocs, on les place un peu comme on veut pour montrer un chemin qui part depuis la Seine plus précisément jusqu'à 8-10 mètres de hauteur. L'objectif c'est d'arriver tout en haut. À chaque prise vous avez un nombre de points. Si vous n'arrivez pas en haut, celle qui allait le plus loin avant le haut l'emporte. C'est égalité, c'est un départage qui se fait au temps. Elles sont 8 en finale. Manon Illy a réalisé tout à l'heure le deuxième score des qualifications derrière Janja Garnbret, la Slovène, championne olympique à Tokyo pour la première de l'escalade. Les 8 jeunes filles ont encore 1 minute 48 pour ausculter ce mur. Elles ont la tête levée vers ce grand mur qui est de couleur bleue et grise et ces prises noires et bleues qui se dessinent. Ça part de la droite, ça fait comme un serpent qui part ensuite vers la gauche et qui se redresse avec bien sûr différentes inclinaisons à chaque moment dans le mur, ce qui rend l'ascension, l'ascension assez difficile, bien sûr.
Merci beaucoup, Morgane. Tu nous tiens au courant, bien évidemment. On reste avec toi. La performance de Manon Illy dans cette finale de la difficulté à Munich lors des championnats d'Europe. Il est 15h54. Arnaud Valadon est là pour la suite de l'Intégral Sport. Salut Arnaud.
Salut Nicolas.
Gros programme.
Salut à tous.
Gros programme, notamment avec ces championnats d'Europe. Là, on va avoir des médailles dans... Tu vas te régaler, tu vas avoir des médailles dans tous les sens.
On a l'impression d'être à Tokyo.
Ouais, c'est vrai. Un petit parfum de Tokyo.
Il y a un peu plus d'un an désormais. Évidemment, on va suivre la finale de Manon Illy en difficulté. Il y aura le triathlon avec la course messieurs qui va démarrer à 16h. On a un champion d'Europe en titre, Pierre Lecor, qui n'avait pas été sélectionné pour les JO, donc il sera peut-être revanchard. On vous expliquera tout ça avec Valentin Jamin. La suite, évidemment, de Guingamp Paris FC en Ligue 2. Et puis, on va se projeter sur la natation, puisqu'à 18h ça repart avec des demi-finales et des finales, notamment Marie Wattel, Maxime Grousset qui seront en lice pour des médailles. Marie Wattel en papillon et Maxime Grousset sur le 100 mètres nage libre. Puis on n'oublie pas la Ligue 1 avec cette affiche, c'est peut-être le premier gros choc de la saison. Tu viens d'en parler avec Xavier Grimaud. Monaco-Rennes, coup d'envoi à 17h avec Florent Germain et Maxime Tillet.
Tu vas te régaler. Moi je vous retrouve à 19h pour le Multi Ligue 2 avec notamment ce match entre les Girondins de Bordeaux et Niort. Vous restez avec nous, l'Intégral Sport se poursuit sur RMC.
RMC Intégral Sport.